BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse, une planète bébé comme bourse pour vos placements, pour votre argent. Bienvenue à tous, c'est une spéciale SpaceX bien sûr parce que ça y est, SpaceX fait ses premiers pas sur le marché américain. C'est la première séance incluant SpaceX aux États-Unis. Antoine Larigaudry est avec nous en fil rouge. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Séance iconique, votre mot du jour.
Est-ce qu'il y a besoin d'un mot à part espace SpaceX qui n'a toujours pas commencé les cotations au Nasdaq, donc prix d'intro 135 $. Si on fait la compilation de tout ce qui peut apparaître en termes de produits financiers et d'options sur les plateformes alternatives, on arriverait à des cours aux alentours des 162. On était monté jusqu'à 174 il y a un petit peu plus d'une heure, donc ça baisse un petit peu, mais on serait sur une hausse de 20 à 30% à l'ouverture qu'on attend toujours.
Effectivement, on attend toujours de connaître le prix spécifique. Il y a tellement d'ordres à l'achat et à la vente que ben voilà, le prix a du mal à s'ajuster. On s'y attendait, hein, on n'est pas déçus. Et les opérateurs boursiers américains sont en train de ramer là, pour fixer ce fameux prix avec Morgan Stanley et JP Morgan qui sont dessus aussi, nous disait tout à l'heure Christophe Pouchois. On regardera tout au long de cet après-midi jusqu'à 18h et même au-delà sur BFM Business. On regardera dans les yeux tous ces espoirs autour de SpaceX. On entend parler d'un marché adressable de 28 000 milliards de dollars. C'est le chiffre annoncé par Elon Musk. Faut pas les confondre quand même, Donald Trump et Elon Musk. Ça fait deux fois que je me plante. Ben, on va vous mettre face à vous-même si vous choisissez d'investir dans SpaceX. Est-ce que vous ne mettez pas entre les mains d'un seul homme, à savoir Elon Musk? Il y a quand même une gouvernance sacrément resserrée autour d'Elon Musk. Et puis, si vous choisissez de ne pas y investir, on vous mettra aussi au défi avec nos experts dans un instant, parce que si vous n'y investissez pas, vous passez peut-être à côté d'un immense potentiel de hausse. SpaceX, ce sont des lanceurs spatiaux, des essaims de satellites avec Starlink, mais aussi des data centers en orbite, c'est la promesse, et de l'intelligence artificielle. Imaginez si tout cela finit par interagir. Et ceux qui décident aujourd'hui de ne pas y investir risquent demain de s'en mordre les doigts et seront questionnés par leurs clients. C'est vraiment, vraiment une position inconfortable que vivent pas mal de gérants en ce moment. On va battre le fer sur cette question et vous apporter des arguments à la fois en faveur et contre. Vous ferez votre propre avis sur SpaceX. On vous apportera des clés aussi opérationnelles pour investir dans l'espace. C'est l'IPO de SpaceX en direct sur BFM Business et une spéciale de BFM Bourse jusqu'à 18h.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Le club est ouvert et dans cette nouvelle demi-heure, on va confronter le feu et la glace. La glace, il aime pas trop cette introduction en bourse de SpaceX. La glace, c'est Laurent Choderge. Bonjour Laurent.
Bonjour Guillaume.
Membre du comité d'investissement de BDL Capital Management. La glace à ma gauche. Le feu, SpaceX, il aime bien, il y croit, il a envie d'y croire en tout cas. Le feu, c'est Jean-Edouin Réa. Bonsoir Jean-Edouin.
Bonsoir Guillaume.
Asset Management. Entre la glace et le feu, l'eau. Il apportera un avis peut-être plus mitigé. Vincent Lecartier pour WeSave. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Guillaume.
La glace, l'eau et le feu, on va confronter vos points de vue. Et à New York, elle est avec nous en direct, notre correspondante sur place. Il faut bien sûr commencer par là où ça se passe. Et l'espace, c'est à Wall Street que ça se passe désormais. Donc devant le siège du Nasdaq, là où SpaceX s'introduit aujourd'hui. Elisabeth, on vous retrouve. Alors quelle est l'ambiance? Là, on voit les images derrière vous. D'abord, le soleil est réapparu. Il pleuvait tout à l'heure. Il y a toujours du monde. Et une ambiance sans doute intéressante à vivre au cœur de ces enjeux. SpaceX qui fait ses premiers pas sur le marché. Elisabeth.
Oui, il y a beaucoup d'attentes là devant le Nasdaq. Alors quand les premières images d'Elon Musk sont apparues à l'ouverture de la bourse sur les écrans du Nasdaq, vous voyez derrière moi, il y a eu des applaudissements, il y a eu des vrais fans. Hein. J'en ai rencontré qui m'ont dit « Ah bah oui, c'est formidable ce qu'il fait, c'est absolument impensable, c'est un génie ». Donc il y a eu plus des pro-Musk que des anti-Musk, puisqu'on attendait quelques manifestations, mais franchement, on n'a pas vu grand-chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de police également. Donc il y a un sentiment d'attente quand même ici. Voir les premières cotations, évidemment.
Oui, bien sûr. Et la presse qui en parle, les médias également. C'est, voilà, dans la façon d'en parler, les Américains, ils sont friands, évidemment, d'aventure. Nous, on est un peu frileux. On se dit, est-ce que tout ça relève pas un peu de la religion? Aux États-Unis, est-ce qu'au contraire, le discours est positif autour de l'introduction de SpaceX? Elisabeth, qui ne nous entend plus. Vous voyez, on arrive à faire... les constellations de satellites dans l'espace, introduire SpaceX sur les marchés, mais parfois on perd le son avec nos correspondants.
Oui, le temps juste de faire une réflexion. Est-ce qu'on peut aussi considérer SpaceX ni comme feu, ni comme glace, ni comme pour, ni comme contre, mais juste comme quelque chose d'intéressant à étudier? Et enfin, on a l'impression, on nous présente le truc, et ça fait quand même pas mal de semaines qu'on en parle, comme une espèce de combat acharné entre des gens qui sont farouchement contre Elon Musk et contre SpaceX, et des gens qui sont farouchement en train de penser que c'est un génie. Je veux dire, au milieu de tout ça, il y a juste des gens qui font leur quotidien autour des fondamentaux, de l'offre et de la demande, du business model, de la profitabilité, etc. C'est assez crispant de passablement de se sentir en train d'exiger de nous qu'on ait un avis tranché, si vous voulez.
Vous n'en avez pas, vous, en tout cas. Laurent, est-ce que vous avez un avis tranché sur SpaceX ?
Je suis d'accord avec Antoine, en fait, sur l'idée que, à la fin, c'est un cas intéressant, quoi qu'il arrive, et je pense qu'il sera dans les livres d'histoire, parce qu'il casse tous les codes de ce qu'on a déjà connu en finance, en termes de, organiser le marché pour pouvoir, lever autant d'argent à une telle valorisation. Et donc, moi, je pense que Elon Musk est un génie absolu. C'est un génie industriel, on le savait déjà, et aujourd'hui, ça montre que c'est un génie financier. La vraie question, c'est est-ce que SpaceX, est un bon investissement? On va probablement acheter, pour ceux qui veulent acheter, 30% au-dessus du cours, d'émission, puisque ça va monter tout de suite.
On attend une hausse de 30%,
voilà. Donc, quand vous allez acheter, vous, par exemple, Guillaume, ça sera 30% plus élevé que le prix d'IPO. Ah, oui. Et la question, c'est est-ce que vous allez gagner de l'argent à ce prix-là? Et moi, ma réponse, c'est que je pense que la probabilité que vous en gagnez pas sur les 10 prochaines années est assez élevée. Si on regarde ce qu'avait fait Amazon à l'époque, ça avait mis beaucoup de temps à récupérer votre somme de départ, alors même qu'Amazon est probablement la plus belle histoire de croissance des 20-25 dernières années. Donc, je pense qu'à 95 fois le chiffre d'affaires, c'est difficile d'être assuré de gagner beaucoup d'argent.
Oui, donc vous assumez de la glace
oui,
sur ce plateau.
Je ferai la glace.
Voilà, on a trouvé la glace. Est-ce qu'on a trouvé le feu ? Jean-Edouin, est-ce que vous, au contraire, vous êtes plus optimiste sur le potentiel de SpaceX ou, ben, comme Antoine à l'instant, vous dites c'est pas une question d'être optimiste, de croire ou pas y croire, il faut juste analyser, regarder les chiffres.
Il faut toujours analyser, regarder les chiffres. Bon, le processus de créer une IPO, c'est vraiment, pendant un moment très très court, une telle négociation de l'offre et de la demande, je ne sais pas, j'ai pas d'avis sur ce que ça vaut aujourd'hui. Mais si je me projette dans 10 ans, j'imagine un monde qui ressemble à une sorte de Matrix. On a 50% des véhicules qui sont autonomes. On a des robots humanoïdes absolument partout, peut-être 10 millions. On a peut-être 200, 250 millions de gens qui se connectent en téléphonie et Internet par l'espace. Il y a de l'IA dans tous ces objets connectés et vous avez devant vous une société qui est capable d'être totalement verticale sur tous les éléments de cet avenir. Elle a un immense réseau social qui est X, elle a des modèles de frontières, elle a Grok et elle récupère Cursor pour rentrer dans le marché agentique. Elle a de la capacité de calcul terrestre énorme, plus d'un gigawatt, et puis probablement elle va monter jusqu'à 10 avant de mettre tout le reste dans l'espace. Elle a les lanceurs, c'est très important, 80% du marché de tous les lanceurs, de toute la tonne de matériel qui va dans l'espace passe par eux. Elle a Starlink, donc on a dit les abonnés, puis elle aura bientôt TerraFab pour faire des semi-conducteurs. En fait, c'est incroyable, si vous voulez. Donc c'est difficile de parier contre ce type. C'est même impossible. Je crois que entre le coût du capital habituel qu'on apprend à l'université et le coût du capital d'Elon Musk, il y a une énorme différence. Il arrive à lever l'argent qu'il veut, quand il veut. Son coût du capital est peut-être proche de zéro. Et donc la valeur financière de ce qu'il crée, moi, je suis assez optimiste quand même. Et je pense qu'il faut accepter. Tout ce qu'il a fait est toujours un peu surévalué, même très surévalué par rapport à ce qu'on apprend à l'école. Mais ça délivre dans les marchés. Voilà.
Oui. Il est quasiment impossible de parier contre, vient de nous dire Jean-Edouin. Laurent, là, vous êtes mis au défi.
On a trouvé un apôtre réel d'Elon Musk qu'on peut parier contre. Mais l'argumentaire témoigne en fait de ce qui se passe, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord que rationnellement et la valorisation n'a pas beaucoup de sens, en tout cas dans les multiples classiques. Donc il faut acheter du rêve et il faut acheter Elon Musk et son aura et son track record. Et à la fin, pourquoi pas? C'est un exercice de foi. La seule chose que je dis, c'est que les capitaux que les gens nous donnent chez BDL, et, ils nous les donnent pas sur la base de la foi, mais sur la base des calculs rationnels d'investissement. Et donc il y a plusieurs critères qui malheureusement ne correspondent pas à ce qu'on fait.
Oui, 28 000 milliards de dollars de marché adressable, dit Elon Musk. Bon, c'est tellement compliqué de vérifier un chiffre pareil. Vous dites ça relève de la foi. Dans un instant, Vincent, vous trancherez, vous nous direz en tout cas comment vous vous positionnez. Mais est-ce que vous faites preuve de foi quand même, d'une certaine façon, Jean-Edouin, en disant qu'on aurait tort de parier contre SpaceX en bourse ?
C'est pas que de la foi. Les chiffres, vous savez, une valeur de croissance qui fait 60% de croissance annuelle, c'est très très difficile à valoriser. Hein, dans le monde du venture capital jusqu'à la bourse, c'est très difficile. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que Google était surévalué à son IPO. Pareil sur Amazon, pareil sur Facebook. Et d'ailleurs, Facebook, ça a perdu, je crois, 40% dans les mois qui ont suivi. Donc, rien n'est garanti. Mais moi, si je regarde certaines estimations que j'ai pu travailler un peu, sur 2028, on est à peu près à 40 fois l'EBITDA. C'est cher, mais c'est pas complètement dingue si je regarde tout le secteur de l'espace. Sur 2030, on est à 17 fois. Et sur 2035, donc dans 10 ans, on est à 3,5 fois. Mais ça, c'est le débat des valeurs de croissance. C'est beaucoup plus facile de valoriser une société qui fait 10% de croissance qu'une société qui en fait 60. Parce que si vous ratez une année à 60%, si vous faites 30, la valo, elle s'effondre. En revanche, si vous allez plus vite, et SpaceX, malgré tout, les estimations que j'ai regardées d'il y a 2 ans, elles sont toutes fausses. C'était largement meilleur que prévu. Donc, c'est pas des chiffres que j'ai jamais vus dans les marchés. Hein, c'est faux. J'ai vu pire. Je soutiens énormément Rocket Lab, mais la valorisation autour de 70 milliards, elle est à plus de 100 fois l'EBITDA.
Oui, alors là, c'est très intéressant, vraiment, parce qu'on a deux avis, pas tranchés, c'est pas ça, curieux, mais du coup, qui voient le même objet de deux angles, sous deux angles différents. Vincent Lecartier, WeSave, plutôt du côté des sceptiques ou plutôt de ceux qui veulent laisser une chance au produit? SpaceX en bourse, vous y croyez ou pas?
Alors, j'ai la chance de pas être investisseur sur les titres en direct, mais sur les ETF. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de faire la synthèse entre les deux positions. Donc, moi, je regarde les flux. Ce que je vois, c'est que un tiers de l'IPO a été réservé aux particuliers, 2/3 pour les institutionnels. Que sur les 2/3 en question, il y en a 70% qui sont affectés à des investisseurs long only. Autrement dit, des gens qui vont garder les titres. Pour que le titre baisse, hein, il faut qu'il y ait des vendeurs. Pour vendre, il faut posséder le titre. Sauf à pouvoir faire du prêt-emprunt. Si vous voulez shorter le titre, donc vendre à découvert, il faut au préalable avoir emprunté le titre. Dans la mesure où vous avez une partie très importante des titres qui sont bloqués soit auprès des particuliers, soit auprès d'investisseurs long only qui n'ont pas forcément envie de voir le titre s'effondrer immédiatement, donc de prêter les titres pour donner la chance à d'autres de faire baisser le titre. Donc je pense que l'essentiel des titres qui sont aujourd'hui disponibles ne seront plus disponibles pour de la vente. Donc ça va être très compliqué déjà, je pense, d'avoir une pression vendeuse significative. Deuxième chose, vous avez un certain nombre de lock-up hein, qui sont en place pour les prochains titres qui seront mis à disposition du public. Ça tombe assez bien parce qu'en fait, les entrées dans les ETF de SpaceX vont à peu près correspondre au même timing que la libération des lock-up. Oui. Autrement dit, on aura des flux qui vont se neutraliser entre la montée en puissance de SpaceX dans les ETF et en face de ça, les flux vendeurs. De plus, le fait d'avoir des titres additionnels qui se mettent sur le marché, ça permet en fait de gonfler mécaniquement le flottant ou la capitalisation, le flottant en tout cas, du titre. Et c'est un des critères qui est retenu par la plupart des émetteurs d'ETF pour le poids qui est finalement retenu dans l'ETF. Alors quand je regarde toujours du point de vue des ETF, bah, ça va rentrer dans les télécoms, l'espace, l'intelligence artificielle, les valeurs de croissance, le Nasdaq et dans un an dans le S&P 500. Donc quand je vois tous ces ETF qui vont être créés, et j'en oublie certainement, quand je vois tous ces ETF qui vont mécaniquement devoir acheter, plus les particuliers qui ont plus que souscrit intégralement l'introduction en bourse, j'ai du mal à imaginer que ça se passe mal.
Laurent, est-ce que vous commencez à trouver la foi là dans SpaceX avec ces arguments?
Non, mais je trouve que c'est l'argumentaire est très bon et c'est exactement ce qui a été orchestré pour pouvoir justifier une telle valorisation. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous d'accord que sur la base des chiffres actuels et même ceux qui sont les plus optimistes justifient plutôt, on l'a vu, sur des hypothèses à 10 ans. Donc sur la base des chiffres actuels, c'est plus compliqué. Donc ce qui se passe, parce que vous voulez quand même mettre 1800 milliards en bourse, il va falloir trouver des acheteurs qui sont insensibles au prix justement. Il y a deux types d'acheteurs. Il y a trois acheteurs. Il y a les institutionnels dont on a parlé, qui eux font attention à la valorisation. Et il y a deux autres types d'acheteurs possibles. C'est les particuliers et la gestion passive. Et c'est ces deux acheteurs qui sont insensibles au prix. Parce que le particulier, encore plus que monsieur, achète lui que du rêve pour le coup, parce qu'il ne sait pas faire de valorisation.
Ah oui.
Et ensuite, la gestion passive, par définition,
se fiche de la valorisation.
Ouais.
Donc c'est to the moon, quoi. On y va.
Donc, le retail, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez sûrement reçu d'email le week-end pour pouvoir souscrire, etc. Et la gestion passive, vous avez fait tout ce qu'il fallait aussi en accélérant la rentrée dans les indices, notamment le Nasdaq 100, le Russell. De telle façon, comme vous le disiez, il y ait ce flux acheteur aussi. Donc, ça va fonctionner exactement comme on le dit. Ça va monter à l'ouverture probablement. Ça va pas être si facile que ça baisse pour les raisons que vous avez données. Mais on voit bien que dans tous les cas, on est en train de parler soit d'artifice, soit de rêve à 5-10 ans, plutôt que de parler sur la valorisation fondamentale, parce que là, on voit bien que tout le monde a un peu de mal.
On poursuit nos échanges dans un instant. Bien sûr, on retourne à New York sur place, à Times Square, devant le siège du Nasdaq. On rejoint notre correspondante Elisabeth Guedel. Elisabeth, donc, alors d'abord, le soleil est revenu. C'est vrai, tout à l'heure, vous étiez avec nous en direct sous la pluie. Il fait toujours très chaud. C'est une chaleur très humide, souvent, l'été au mois de New York. Dans la presse, dans les médias américains, quelle est, voilà, la tonalité vis-à-vis de cette introduction en bourse? Est-ce que les débats qu'on a aujourd'hui en plateau sont les mêmes aux États-Unis?
Oui, est-ce que c'est la fièvre hein, sur place? Écoutez, évidemment, tous les médias parlent au superlatif de cette introduction en bourse. On peut pas faire autrement, mais on sent quand même qu'il y a certaines inquiétudes. Déjà, on attend de voir si cette introduction en bourse va bien se passer. Ça, c'est ce que souligne le Washington Post. Et pour ça, il faudrait qu'Elon Musk aussi atteigne ses résultats, ses objectifs, notamment d'envoyer l'humain sur Mars. Donc, pour que ça se passe bien, cette introduction en bourse, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est dans plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Vous en parlez abondamment sur le plateau. Donc, il faut savoir d'ailleurs que le Washington Post est détenu par un des concurrents d'Elon Musk, Jeff Bezos, le fondateur de Blue Origin et d'Amazon. C'est aussi, les médias soulignent beaucoup la valeur de test de cette introduction en bourse. Pour le New York Times, c'est un test sur l'influence d'Elon Musk qui va voir ses pouvoirs renforcés. Test aussi sur la confiance qu'a le public dans sa vision d'entrepreneur, dans sa vision de l'avenir de l'humanité. Et puis le Wall Street Journal, qui fait évidemment le tour de toutes les questions sur cette introduction en bourse, parle aussi d'un test pour les marchés, de l'appétit des investisseurs pour ces méga introductions en bourse, puisqu'on attend d'ici la fin de l'année l'introduction en bourse d'OpenAI et de Anthropic. Donc oui, il y a beaucoup de méga introductions en bourse qui s'annoncent. Donc voilà, il y a quand même une certaine attente et d'attendre voir si vraiment ça se passe bien aujourd'hui et dans les prochaines semaines pour cette action SpaceX.
Vous restez avec nous, Elisabeth, parce qu'on parlera aussi des enjeux de cette introduction en bourse pour Donald Trump, qui fêtera son anniversaire dans 2 jours. Dans une poignée de secondes, on va vous retrouver à New York. Est-ce que ce qui se passe, qui joue sur cette introduction en bourse, en effet, conditionnera le succès, l'appétit, les choix de gouvernance même des prochaines, Anthropic à suivre, OpenAI, peut-être même Perplexity, on en entend parler maintenant aussi pour 2028. Est-ce que là, c'est une forme de benchmark qui est en train d'apparaître pour les futures introductions, les grandes introductions à venir, Vincent?
Ça améliore la confiance dans le fait que la bourse fonctionne bien, que les introductions en bourse sont une manière de faire de l'argent vite fait. Et par les temps qui courent aux États-Unis, pour beaucoup de particuliers qui peuvent avoir des problématiques de pouvoir d'achat, l'idée de faire de l'argent vite fait, c'est pas forcément quelque chose de désagréable. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est un bon signal. On sait très bien de toute façon que la bourse, il y a un effet patrimonial très important aux États-Unis et c'est un sujet très important. C'est pas pour rien si les grandes banques d'affaires poussent autant ce dossier-là. C'est parce qu'elles savent très bien que derrière, elles ont des enjeux importants avec les prochaines introductions en bourse, mais aussi le fait que globalement, elles continuent de toucher des fees régulièrement sur le fait que les petits particuliers tournent régulièrement leur portefeuille, vendent du Bitcoin pour acheter du SpaceX, etc.
Et une façon, vous l'avez très très bien dit en 2-3 mots, une façon de faire de l'argent vite fait, dites-vous. Oui, non, mais c'est vrai, face à l'inflation, c'est vrai, sur le marché du crédit, les consommateurs américains sont vraiment étranglés en ce moment, donc ça permet de se faire de l'argent vite fait également. Elisabeth, on vous retrouve à nouveau à New York. C'est vrai qu'il y a un enjeu politique en cette période d'inflation, de doute sur la politique aussi menée par Donald Trump. Est-ce qu'il est en train de jouer son avenir à quelques mois des midterms aussi à travers cette introduction en bourse, Donald Trump?
Écoutez, on sait que Donald Trump adore les succès boursiers. Il faut savoir qu'il a toujours la télévision allumée sur CNBC, la chaîne financière ici. Les succès, surtout quand il peut en tirer profit. Et c'est vrai, on en parlait. Si ça se passe bien pour SpaceX, ça sera un bon signal pour un autre secteur, l'intelligence artificielle, avec OpenAI et Anthropic, on vient de le dire, d'autres introductions en bourse. Et donc, pour Donald Trump, qui pousse énormément pour ce secteur de l'intelligence artificielle, ce sera toujours positif de montrer combien eh bien, il a encouragé l'innovation, le business aux États-Unis. Ce sera évidemment un point important pour lui à souligner pendant la campagne des midterms, puisqu'il est un peu empêtré avec l'histoire avec la guerre en Iran et aussi l'inflation, hein, 4,2% enregistrée le mois dernier. Elle s'est accélérée et les Américains n'aiment pas ça. Ils pourraient leur faire payer les Républicains, le parti de Donald Trump, dans les urnes au mois de novembre. Donc, c'est certain que si ça se passe bien, Donald Trump va en tirer profit, même si ses relations ont été un peu orageuses avec Elon Musk. Ils ont été extrêmement proches, puis après se sont séparés après qu'Elon Musk a travaillé pour l'administration. Oui. Mais il y a quelques jours, Donald Trump disait que Musk avait eu un mauvais passage, mais qu'ils sont très bons amis. Donc, on sent effectivement qu'il va y avoir... Donald Trump va tirer profit de cette introduction.
Elisabeth Guedel, merci beaucoup, Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York, devant le siège du Nasdaq. Si vous cherchez l'adresse de l'espace en bourse, ben c'est Wall Street, c'est devant le Nasdaq, et c'est là que vous nous accompagnez en fil rouge au cœur de BFM Bourse. Wall Street qui est en hausse, hein, le Nasdaq, justement, on en parlait, gagne 0,7%, et on attend toujours à 17h24, 11h24 à New York en direct, on attend toujours le prix de SpaceX. Il y a tellement d'ordres dans un sens et dans un autre, et tellement de volume autour de cette opération que pour l'instant, les opérateurs boursiers peinent à fixer précisément un prix. On attend, on suit tout cela et on traque avec Antoine. Jean-Edwin, on vous retrouve à nouveau. Jean-Edwin, on le disait, vous êtes le feu là, vous y croyez plutôt à SpaceX et son avenir boursier. Est-ce que néanmoins, en termes de démocratie actionnariale, vous reconnaîtrez qu'on peut faire mieux ?
Ah oui, ça c'est sûr qu'on peut faire mieux, mais dans toutes les boîtes de tech, de toute façon, c'est un peu comme dans les médias historiquement, en remontant à des périodes comme Murdoch et Hearst, très très loin dans le siècle dernier, les droits de vote sont pas purement démocratiques. Zuckerberg contrôle Meta, les fondateurs de Google, Brin et Page, contrôlent Google. Et bon, là, c'est la même chose avec SpaceX. Et moi, je pense même qu'il va fusionner avec Tesla d'ici un an, parce que tout ça n'a plus vraiment de raison d'être deux entreprises. Mais je vais quand même rajouter, si je peux, une petite anecdote, parce que on est dans un nouveau paradigme. Je sais que c'est tellement risqué de parler comme ça devant les marchés. On a déjà vu ça tellement de fois. Mais Anthropic a mis 4 ans à passer de 0 à 50 milliards de chiffre d'affaires. Ça n'est jamais arrivé. Microsoft et Apple ont mis 30 ans à y arriver. Et toutes les GAFA, elles ont mis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, il se passe quelque chose. Il y a un transfert de valeur vers ce business de l'IA. Et SpaceX, aujourd'hui, c'est une boîte d'IA. Ils ont fait, que je ne dise pas de bêtises, 18 ou 19 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Ils vont faire 56 milliards l'année prochaine. Donc, ils multiplient par 3. Toute cette différence, c'est l'IA. Il y a Starlink, certainement, hein, c'est très important, mais c'est complètement offusqué par les signatures de contrats qu'ils font dans l'IA. Les data centers qu'il a réussi à construire et qu'il n'a pas tout à fait rempli avec Grok, qui est un modèle pour l'instant inférieur, il a reloué tout ça in extremis, certes, mais avec son talent incroyable, à Cursor, à Google et à Anthropic, juste avant l'IPO, et il récupère, que je ne dise pas de bêtises, 24 milliards de chiffre d'affaires annuel, comme ça. Et c'est révocable quand il veut, quand eux veulent aussi. C'est probablement, je pense, des contrats qui vont durer autour de 3 ans. Et ça va lui permettre de faire la bascule vers les centres de données dans l'espace. Donc, c'est sûr qu'il faut croire à beaucoup de choses.
Oui.
Mais on ne peut pas nier que si quelqu'un réussit à faire des projets d'envergure gouvernementale, d'envergure nationale, à une échelle privée, avec une armée d'ingénieurs et d'exécutants qui sont hors normes, c'est lui. Donc, c'est très difficile d'être bearish.
Oui, mais en même temps, pourvu qu'Elon Musk est pas mal au ventre, qu'il ne se casse pas une jambe, parce que tout dépend
de
Elon Musk, quoi. Oui.
Le risque, l'assurance sur sa vie, je pense que personne ne la prend. Hein.
Ouais, c'est fou. Il détient 82% des droits de vote. Il sera impossible d'évincer ou de limoger Elon Musk. Strictement impossible. Si vous êtes actionnaire de SpaceX, vous avez le droit de financer le groupe, mais pas de contester la stratégie. Il est irrévocable, impossible à limoger. Ok. Mais est-ce que c'est le prix à payer quelque part aussi pour la vision long terme? Parce que c'est vrai, c'est la même différence qu'entre nos démocraties et la Chine. Dire nos démocraties, d'un point de vue moral et politique, c'est peut-être plus vertueux que la Chine. Mais pour préparer le très long terme, on sent bien que la Chine, c'est plus efficient et efficace. Est-ce que dans les entreprises, c'est pas un peu pareil? Est-ce que ce manque de démocratie actionnariale est peut-être le gage, justement, du très long terme et de choix, de stratégie peut-être plus profonde, plus structurelle, amenée à durer, plus que si on avait un modèle de vertu actionnariale? Laurent?
Non, mais là-dessus, je suis d'accord.
C'est-à-dire il va pouvoir tenir son cap, sa stratégie est restée.
Si vous me donnez le choix de parier sur un seul businessman sur les 10 prochaines années, je pense que je prendrai Elon Musk. Après, quand vous me dites combien ça coûte de payer, de faire ce pari-là, c'est là où je dis, bah, je ne ferai pas ça peut-être aujourd'hui, il y aura peut-être des occasions d'acheter ce droit-là sur Elon Musk moins cher. C'est ça notre propos. Et nous, quand on réfléchit à ce que c'est qu'un bon investissement, si vous donnez un peu la définition, pour nous, c'est à la fois avoir beaucoup de chance que vos raisonnements soient vrais et très peu de chance de perdre beaucoup d'argent si vous avez tort. Et là, je pense que c'est inversé. C'est-à-dire que c'est la probabilité que ça fonctionne, tout est possible. Hein, on l'a dit, on a expliqué pourquoi ce serait possible. Mmh. Il y a une différence entre probable et possible. Et par contre, si ça ne marche pas, là, vous pouvez vraiment perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que le risk-reward pour nous sera peut-être intéressant, plus intéressant à d'autres moments.
Est-ce que ce qui ira à SpaceX n'ira plus au reste, quoi? Est-ce que SpaceX, les capitaux qui iront sur SpaceX, quelque part, n'iront plus au reste de la tech? Est-ce que vous imaginez que c'est une forme de paquebot dans une piscine là, qui arrive dans le marché? Est-ce que c'est trop gros pour le marché? Avec en plus derrière l'introduction en bourse attendue d'Anthropic, les levées de capitaux d'Alphabet aussi, 85 milliards de dollars. Est-ce que c'est trop d'un coup, Vincent?
Alors, de toute façon, il y a une forme de création de valeur. On voit bien, par exemple, que les valeurs de l'aéronautique spatiale ont flambé depuis le début de l'année. Donc, il y a eu de la création de valeur. Donc, d'une certaine manière, il y a un recyclage de cette création de valeur sur les autres titres vers SpaceX. Si effectivement la bourse continue d'apprécier cette thématique, si derrière ça facilite l'introduction en bourse d'Anthropic, d'OpenAI, il est clair qu'on va continuer d'avoir un gâteau qui va gonfler et donc on va pouvoir faire de la rotation, on va pouvoir faire des tas de choses qui se portent très bien. Ça veut dire aussi que si vous croyez derrière, pour moi, le pari de SpaceX, vous avez un pari gain de productivité et intelligence artificielle. Les gains de productivité, vous pouvez très bien aussi les décliner sur l'ensemble de la chaîne que va essayer de déployer SpaceX au niveau industriel. Il y a des tas d'endroits sur lesquels soit la société elle-même, soit tous ses fournisseurs vont pouvoir essayer d'apporter de la valeur ajoutée. Donc le pari sur le chiffre d'affaires, c'est une chose. Le pari sur la rentabilité de la société, c'en est une autre. De mon point de vue, il y a quand même une certaine possibilité, probabilité, qu'au bout du compte, peut-être que le chiffre d'affaires sera un peu décevant par rapport aux ambitions, mais peut-être qu'au final, en termes de rentabilité, on sera parvenu à optimiser les choses et au final, le pari SpaceX pourrait être un bon pari.
Alors là, oui, je suis surpris. En fait, vous plutôt un biais positif sur SpaceX, prudent mais plutôt positif. Vous laissez sa chance.
J'ai un biais positif croissance, j'ai un biais positif techno parce que de mon point de vue, de toute façon, l'évolution de nos sociétés va de plus en plus dans ce sens-là.
Et c'est de la fuite des capitaux encore supplémentaires à venir ou pas? Parce que tout cet argent-là, il viendra aussi du reste du monde, y compris de l'Europe, y compris de la France. On a déjà très très peu d'introductions en bourse ici en Europe et en France. Quand il y en a, elles sont rarement très ouvertes aux particuliers. Là, SpaceX est ouvert au monde entier et aux particuliers. C'est des fuites de capitaux encore à venir vers les entreprises américaines?
Si l'État fait une commande auprès de SpaceX... Est-ce que c'est une fuite de capitaux ou est-ce que c'est un investissement? Est-ce que plus tard, il n'aura pas un retour sur investissement via la fiscalité? Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent que c'est une bonne chose de voir ce type de projet se développer. Alors, est-ce que ça sera le seul qui fonctionnera? C'est pas certain. Et j'espère qu'il y aura de la concurrence à l'égard de SpaceX. Mais ma conviction, c'est en tout cas que ces projets-là vont se développer et qu'au final, il y aura probablement des bénéfices à en tirer et donc de la fiscalité pour les États.
Laurent, là-dessus ?
Non, mais moi, je reviens sur un point avant, et parce que on a quand même des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent faire de l'argent soit vite fait, soit à moyen ou long terme. Et je pense qu'il y a un point très important, et c'est pas que SpaceX en général, il faut pas confondre croissance et performance boursière. Parce que l'histoire est peuplée de valeurs de croissance qui n'ont pas réussi. Et un des exemples les plus fameux, c'est l'industrie des compagnies aériennes, qui a probablement la plus de croissance sur les 100 dernières années. Le premier avion, il vole dans les années 1915. Et vous avez 10% de croissance par an pendant 90 ans. La pire industrie pour l'actionnaire sur les 100 dernières années, c'est les compagnies aériennes. L'industrie est peuplée de faillites parce qu'il n'y avait pas de pricing power. Donc, ce n'est pas du tout le cas de SpaceX, qui est une entreprise exceptionnelle. Mais pour nos auditeurs, je dis juste, faites attention à ne pas confondre croissance et performance boursière, parce que parfois, ça ne va pas ensemble.
L'avantage de SpaceX, c'est que la société est en situation de quasi-monopole. Donc, ça change tout en termes de marge.
Grande différence avec Tesla, par exemple.
Voilà, en termes de confort, je pense que c'est beaucoup plus facile d'investir sur ce dossier plutôt que sur Tesla.
Oui, Jean-Edouin, pour vous, SpaceX, boursièrement, c'est plus proche d'un Tesla ou plus proche d'un Nvidia, dont on disait il y a quelques années, mais ça vaut beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, c'est une des grandes techs américaines dont on dit qu'elles ne sont pas trop chères.
Non, je la mettrais plutôt proche d'un Google. C'est la verticalité de l'intégration de tous les métiers. Et encore une fois, je pense que c'est une boîte d'IA, c'est pas vraiment une boîte d'espace à partir de maintenant. Sinon, je rejoins le problème de la valo. Si vous valorisez que les lanceurs et l'activité de l'espace, on peut quand même souligner que 75% des lancements de fusées sont pour, on va dire, un client interne, pour lui-même, pour les satellites de Starlink. Donc, d'une certaine manière, elle n'est pas valorisée uniquement sur l'économie de ses clients, elle est valorisée sur le déploiement de la constellation et le chiffre d'affaires de Starlink. Mais c'est petit, Starlink, à l'échelle de la CAPI. Ce qui est énorme, c'est de devenir le plus gros fournisseur de calcul IA. Et l'équation qui compte, c'est IA égale énergie. Aujourd'hui, il y a pénurie d'électricité pour construire ces centres de données. Ils sont en retard et il y a de l'inflation dans l'IA. C'était pas prévu et c'est ce qu'on a remarqué récemment. C'est pour ça qu'il y a eu des moratoires chez Microsoft, par exemple. On a décidé qu'au 30 juin, il n'y aura pas de cloud code en interne. Tous ces enjeux énergétiques sont majeurs et la solution pour que l'IA devienne ce qu'elle a promis d'être, c'est de l'envoyer dans l'espace. En plus, d'un point de vue environnemental, c'est très important.
Oui.
Donc, c'est high risk, high return. Le premier arrivé gagne vraiment un gros gâteau.
Et d'ailleurs, c'est une question aussi pour les introductions en bourse. Est-ce que si ça cartonne trop sur SpaceX, du coup, ce sera plus compliqué pour les suivantes, pour Anthropic et compagnie? Bon, on pourrait comme ça débattre pendant 1000 ans. D'un mot, d'un seul, Vincent, lequel des deux aura le plus de mal à justifier sa position auprès de ses clients? Laurent qui veut pas de SpaceX ou plutôt Jean-Edouin qui en veut? Qui prend le plus de risques, là, d'après vous?
Je pense que c'est Jean-Edouin à court terme.
Ah, c'est une bonne réponse, ça. Antoine, dans 3 minutes, on saura, c'est ça?
Dans 2 minutes 30, même moins. Là, a priori, le titre SpaceX va officiellement coter. 2 minutes 15 maintenant, très voilà. Exactement.
Bon, on va pas perdre de temps, on laisse passer la pub. Merci à nos experts ce soir. Laurent Chauderge qui était avec nous. Ben voilà, la glace, mais avec des nuances bien évidemment, sur notre plateau. Merci beaucoup Laurent pour BDL Capital. Merci à Jean-Edouin Réa. Le feu, il y croit à SpaceX, Sony AM. Le feu, Sony, ça tombe très bien. Et vous, Vincent Lecartier, We Save. Entre les deux, mais plutôt côté du feu. Hein, vous y croyez plutôt gentiment. Dans un instant, la clôture. Et donc, a priori, on devrait avoir le prix de SpaceX en direct. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Et pendant ce temps, on parle beaucoup de SpaceX. Pendant ce temps, le CAC nous fait une belle fusée ce soir.
Et une belle hausse, plus 1,8%. On termine à 8350 points du côté de l'indice parisien, plus 1,9% pour l'Euronext Tech Leaders. L'Eurostoxx 50 lui gagne 2,16, plus 1,76 pour Francfort et plus 2,49 pour l'indice IBEX à Madrid, la plus forte hausse du CAC 40. Tiens, Société Générale, plus 6,15% à 73,40 €. Ben oui, mais il y a un rapport avec SpaceX. C'est que c'est la banque française la plus exposée à la vente des actions SpaceX. ArcelorMittal gagne 5,9% à 60,60 €. Accor, plus 5,6% à 47,39 €. BNP Paribas, plus 5,17% à 96,69 €. Tendance positive pendant toute la journée. Dassault Systèmes gagne, perd 5,5% à 17,21 €. Total Energy, bah oui, parce que le baril de Brent a largement corrigé. On est désormais bien loin sous les 90 $, à 86,97 €, très exactement. Total Energy dans le sillage perd 2% à 76,38 €. À noter les deux plus forts mouvements sur le SBF 120 quand même. Eramet qui gagne 11% à 55,15 €. Exel Technology perd 16,2% à 100,60 €. Et puis je regarde à nouveau sur mes tablettes, mais toujours pas de signe de cotation pour SpaceX. On attend toujours.
Mais oui,
Gilles Santacreux pourra peut-être nous éclairer sur les chiffres des volumes à Paris qui étaient apparemment très très copieux. Là, je les ai pas, malheureusement, ça fait plip. Si, 5,3 milliards.
Ah, c'est pas mal, effectivement. Ouais, Gilles, grosse séance du coup, on parle tout le temps de SpaceX, on va continuer dans un instant, mais grosse séance aussi ici en Europe et à la Bourse de Paris, le CAC gagne 1,8%.
Tout à fait, et on a des signaux techniques très intéressants. On attendait une rupture de la zone des 8 300 points. Cette zone, elle a été cassée sur gap haussier dès ce matin. Le gap n'a jamais été comblé. Chose à préciser, si on réintègre les dividendes, eh bien, le CAC 40 à son plus haut n'était plus qu'à 0,5% de son record. Sur l'Eurostock 50, d'ailleurs, je crois que l'on a battu le record, hein. Donc on a un nouveau plus haut historique. Ce qui indique que finalement, les indices européens, le DAX est un peu plus loin, mais les indices européens se portent plutôt bien dans ce marché, là où les indices américains en sont encore loin. Donc on a des signaux assez positifs. Je dirais que maintenant, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 8 300 8 250, eh bien ça restera positif.
D'accord.
On va quand même regarder ce qui va se passer ce week-end, notamment par rapport à cet accord de paix qui n'a pas été confirmé par l'Iran, puisqu'on peut tout de même avoir encore des retournements de situation.
Ah oui, c'est le 39e accord de paix annoncé par Donald Trump avec l'Iran. C'est la 39e fois, mais il y a une comptabilité très, très précise et sérieuse. Hein. 39e fois qu'il annonce donc un accord de paix avec l'Iran, et c'est aussi la 39e fois que l'Iran dit n'avoir pas dealé ni signé. Alors voilà, on en est là, mais le marché, pour la 20e fois sans doute, il veut y croire. Le CAC 40 gagne 1,8%. On va refaire la séance avec tous nos experts, on est ensemble et on va revenir à SpaceX, voir où on en est là sur l'introduction en bourse de SpaceX aux États-Unis. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec, ils sont là, Stéphanie Mauger, gérante privée pour la financière du ZES. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Bienvenue. Et Aymeric Blond pour Taylor AM. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Bienvenue également. Toujours pas de prix. Hein. Alors on regarde les médias américains aussi, qui nous parlent d'un prix indicatif, donc indicatif de $150. On était à 155 il y a 10 minutes, là on serait à seulement 150. Ce qui est bien, hein, c'est une hausse quand même, hein, pour l'ouverture de SpaceX, mais une hausse qui semble vouloir être un peu moins spectaculaire que ce qu'on imaginait au tout début, plus 30. Là on serait peut-être plus sur du plus 20, bon, ce qui reste quand même confortable, ça n'est qu'un prix indicatif, on n'a pas encore le prix réel, parce qu'il y a tellement, tellement d'ordres à la vente et à l'achat que les opérateurs ont bien du mal à suivre et à ajuster le prix. Comment vous la regardez, cette introduction en bourse de SpaceX, Stéphanie ?
Ah ben on rêve, je pense qu'on parle, il y a les pros et les contres, les pros Elon Musk et les contres Elon Musk. Néanmoins, on peut revenir à des rationnels, hein, sur des chiffres qui sont fous. En fait, on a une valorisation qui est folle, on a un flottant qui est mis sur le marché qui est tout petit, et on a des chiffres d'affaires qui sont colossaux, mais des pertes qui sont colossales. Donc, si on regarde le rationnel de l'investissement pour nous, les gérants, clairement, c'est compliqué à justifier aujourd'hui. Encore faut-il croire, voilà, aux prévisions de croissance des chiffres à venir.
Mais Nvidia, il y a 5-6 ans, vous auriez tenu le même discours.
On est d'accord, on est d'accord.
Aymeric. C'est facile de poser les questions et de porter la critique. Je suis d'accord, je préfère être à la place qu'à la vôtre. C'est pas facile du tout.
C'est vrai qu'à posteriori, on est bien meilleur. J'ai remarqué.
Oui, moi aussi. Oui.
C'est pas dit.
C'est ça.
Mais non. Mais moi, j'irais même encore plus loin que le rêve. Je dirais le fantasme. Mais c'est ce que vend Elon Musk depuis, pas depuis PayPal, mais depuis Tesla. Depuis qu'il a commencé avec son roadster Tesla, on est dans le domaine du fantasme où effectivement on vend de la voiture connectée à outrance, des fonctions autopilote de rang 5, on vend l'automatisation à 100% des usines, on vend des gigafactories, on vend plein de choses comme ça. Mais toujours avec, il faut garder en tête que ça reste quand même la galaxie Musk. c'est quand même plus de, je sais pas, je disais un truc, c'était 70 milliards de pertes cumulées. Effectivement, enfin, tout au long de l'historique de la, du mythe Musk. Donc, avec SolarCity, Tesla, SpaceX, X,
XCI. Il y a aussi, on l'avait oublié, on en a parlé hier, Antoine, The Boring Company, c'est ça?
Voilà, Boring Company.
Boring Company, ça,
on l'avait oublié. On en parle plus.
Tout ça, c'est son rêve global. Ont été abandonnés. C'est d'aller pouvoir coloniser Mars. Donc, toutes ces technologies, que ce soit la voiture électrique, les tunnels, etc., les fusées, c'est, l'idée, c'est d'aller mettre l'homme sur Mars. Hein,
si vous aviez le choix, vous deviez, par exemple, choisir entre aller sur Mars et mettre tout votre portefeuille d'investissement en SpaceX, vous choisissez quoi? Ah, ça va ensemble, hein, ça va ensemble.
Choix. Il y a d'autres choix.
Il y a d'autres choix possibles. Bon, alors justement, d'autres choix. Comment on investit dans l'espace au-delà de SpaceX? Est-ce qu'il y a une face cachée de l'espace là? Parce que SpaceX prend toute la lumière. De l'autre côté, est-ce que vous voyez d'autres valeurs? Pourquoi pas ici, d'ailleurs, en Europe? Aymeric.
Je pense que c'est un petit peu comme on a dans l'IA. Effectivement, l'IA américaine prend tout l'espace. Mais derrière, il y a toute la partie infrastructure avec plein d'acteurs qui sont cotés en bourse en Europe et aux US. Et en Europe, on peut penser sur l'aérospatial, hein, on peut penser à des gens comme Thales, on peut penser à des gens comme Avio qui font effectivement les moteurs de fusée. On peut penser à des
Avio,
gens comme
Avio. Oui, on a des groupes européens qui font les moteurs de fusée. C'est un groupe
absolument.
Italien, Avio.
Oui, ouais. Oui, absolument. STM aussi dans la gestion de puissance et dans effectivement la radiofréquence.
Vous allez bientôt me sortir Schneider Electric et Legrand. Là, je le vois venir.
Non.
Non, mais Airbus et Safran, par exemple, quand même aussi. Et après. Évidemment, il y a Eutelsat sur ce secteur de l'espace, mais qui n'est quand même pas un acteur qui fait rêver, quoi. C'est aujourd'hui, ça a été très volatile parce que ça a été associé à l'idée de l'espace, mais c'est un bilan qui est lourd. Il y a la thématique de la souveraineté, donc on peut aussi se dire que si les Européens se réveillent et qu'on a besoin d'un acteur souverain, Eutelsat est quand même là.
Oui, quand vous voyez un ovni boursier, quand vous voyez un ovni tout court, vous avez peur ou vous avez envie d'y aller, d'aller à leur rencontre là? C'est la question qui se pose avec SpaceX. Vous avez envie d'y aller dans SpaceX, d'y investir ou ça vous fait peur et vous préférez tourner le dos?
On continue de suivre tout ça. On va avoir beaucoup de retours de papier parce que dans toutes ces introductions en bourse, il y a eu en amont de l'introduction en bourse pas mal de levées de fonds en pré-IPO avec du coup des gens qui ont des clauses de lock-up, hein, que ce soit les salariés ou ces investisseurs et qui vont devoir attendre une certaine durée. Alors la plupart du temps, c'est 6 mois. Donc, on pourrait avoir un retour de papier assez massif sur une période.
Oui, mais au moment où beaucoup d'ETF et d'indices devront intégrer SpaceX, c'est ce que nous disait Vincent Lecartier. Il nous disait on pourrait avoir un retour de papier, mais au moment justement où parallèlement, les ETF et les indices devront intégrer SpaceX. Donc, tout ça pourrait se compenser. Alors, voilà.
C'est pas gagné. Ça reste contenu parce qu'il y a 4% de flottant. Hein, donc, effectivement, ça va être difficile de placer.
La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul n'est destiné à rester dans son berceau tout au long de sa vie. C'est la phrase du père de l'astronomie moderne. Voilà. Nul n'est destiné à rester dans son berceau tout au long de sa vie. La Terre est le berceau. Mais l'idée est d'aller au-delà. Voilà. Et c'est sans doute ce qui motive aussi Elon Musk. Ça n'empêche pas le CAC 40 de regarder aussi d'autres considérations. Alors, dans le secteur de la défense, aujourd'hui, on a quand même une grosse déception à Paris. On n'a pas très bien compris. Enfin, vous aussi, je sais que vous avez compris pourquoi. Le titre Exel avait perdu 16%, un des chouchous du marché. Moins 16. Pourquoi, Stéphanie?
Alors, on a une structure de la dette sur Exel qui est lourde. Exel avait fait une grosse acquisition, Exblue. Il y avait un fonds au moment dans cette société qu'ils avaient acquis, qui était ICG. Et tout d'un coup, ICG s'est réveillé en disant « En fait, moi, je vais vouloir exercer le remboursement de ce à quoi j'ai droit à un prix qui est plutôt basé sur le cours de bourse, qui a fait une très belle performance, versus qu'il y a dans le contrat. Alors, ça va être une négociation, à mon avis, de techniciens, de banques d'affaires, mais il y a quand même un delta de 380 millions, en gros, entre ce que Exail est prêt à rembourser ICG et puis ce que réclame ICG. Donc, le marché anticipe sans doute une augmentation de capital, donc ça déstabilise un peu, surtout sur un titre qui a très très bien performé, mais qui reste avec des fondamentaux très solides, un carnet de commandes extrêmement rempli dans toutes ces thématiques des drones sous-marins, notamment, qui vont permettre de déminer ce fameux détroit d'Hormuz, notamment lorsque on aura finalisé notre cet accord de paix.
Quand vous entendez ce son, ça veut dire qu'il se passe un truc. On est ensemble en direct, 17h49 ici à Paris, mais 11h49 à New York. C'est à New York qu'il se passe un truc en direct. Ça y est, Antoine, on l'a, le prix.
Oui, ça y est. Nul n'est censé rester dans son berceau toute sa vie, vous disiez. Enfin, ça y est. Plus 18,3% pour le titre SpaceX,
qui signe sa première cotation à 159,95 euros, donc pour un prix d'introduction de 135. On est allé beaucoup plus haut en avant-marché, mais voilà, les prix se sont stabilisés avec quand même une très très belle performance, hein, plus 18,5%.
Ça y est, on a le prix, on a SpaceX coté en bourse, ça y est, ils ont enfin trouvé la solution quand même face à tant d'ordres à l'achat. 162 dollars donc, en hausse de 19,5% ce titre SpaceX. Non, c'est un peu décevant quand même. On entendait parler de plus 30, plus 35. Hier, Geoffrey Wafka pour Auris Gestion nous disait si ça fait pas plus 30, ce sera une petite déception. C'est une petite déception un peu quand même ou pas là, Aymeric? Plus 19, bah, c'est bien bien sûr. Mais...
Attends deux secondes que ça décompte, oui, hein, on va peut-être pas tarder.
Oui, le carnet est encore jeune, hein, ça c'est clair. Mais
on est déjà à 160 là.
Non, je pense, il faut pas oublier que l'opération était sursouscrite 4 fois, hein, donc effectivement c'est quand même pas mal. Ça peut donner un peu de mou pour encore que ça progresse, parce que effectivement il y aura beaucoup d'insatisfaits. Il y a des gens qui sont en train de construire des positions parce qu'ils ont des fonds ou des indices à construire, et il va falloir construire ces positions. Ça prendra un peu de temps.
Et les Européens, notamment, les Européens ont été très peu servis sur cette introduction en bourse, très très peu.
Oui, c'est un peu normal.
Donc ils viendront peut-être après, mais voilà.
Donc voilà, ça peut être la deuxième vague d'achat. Après, il y a la troisième vague, c'est les gens qui commencent à faire les comptes et voir effectivement si ce qu'on a en portefeuille est qualitatif ou pas. Stéphanie évoquait les valorisations et puis la partie est-ce qu'on gagne ou perd de l'argent. Ça reste un groupe qui perd massivement de l'argent, et les pertes vont s'amplifier puisque les plans de CAPEX programmés sont extrêmement importants.
Et on a bien vu que dans l'IA, bah, c'est quand même ça qui est le retour à la réalité. Ça a été, il y a eu une coupure nette entre les sociétés qui font des pertes et puis celles qui gagnent de l'argent. Donc est-ce que SpaceX va se retrouver un jour face au mur des réalités dans l'appréciation des gens qui achètent ces actions?
On a le prix de SpaceX, ça y est, enfin, après un peu plus de 2 heures d'attente, 2 heures et 20 minutes d'attente, on l'a. On cote 157,85 $ SpaceX en ce moment, 157,59 $ précisément, pour un titre qui avait été introduit à 135. Ça fait une hausse de 17% à l'instant, plus 17% donc SpaceX. C'est bien, hein, plus 17, c'est une introduction en bourse réussie.
Oui.
Mais c'est pas plus 30, hein, quand même. Alors ça laisse peut-être un peu de marge et de place pour la suite. Vous me regardez comme si j'étais très exigeant. On parle de SpaceX, Aymeric. On parle de SpaceX.
Oui, mais
on peut pas ne pas être exigeant avec SpaceX quand même.
Moi, on m'a toujours traité de rêveur pendant ma scolarité, mais maintenant, j'ai été un peu rappelé aux réalités en tant que gérant, et effectivement, j'ai des considérations de performance et puis de clientèle qui viennent me rappeler constamment pourquoi j'investis dans quelque chose.
Oui. Et est-ce qu'on peut, face à un ovni comme SpaceX, à un homme comme Elon Musk, garder les bons vieux réflexes d'investir comme un bon vieux père de famille ou une mère de famille? Est-ce que ça marche face à SpaceX, ou est-ce que c'est pas un rond dans un carré en l'occurrence?
Mais c'est notre job, on est obligé d'adapter le portefeuille de nos clients à leur profil de risque. Donc il y a des clients qui seront prêts à prendre ce risque, et puis d'autres pour lesquels on ne peut pas se le permettre.
Oui, oui. Tout à l'heure, dans les pros des cryptos, je demandais à des acteurs des cryptos, hein, ils savent ce que c'est que la volatilité, prendre du risque et tout, je leur demandais ce qu'ils privilégient entre SpaceX, le titre SpaceX en bourse, hein, c'est pas leur culture, et le Dogecoin, vous savez, le coin, la crypto portée par Elon Musk. Les deux, c'est Elon Musk, hein, SpaceX et Dogecoin, ouais. Et ils m'ont dit, non, mais sans hésiter, SpaceX, alors qu'ils viennent de la crypto, hein, voilà. Alors c'est peut-être mauvais signe du coup pour SpaceX, je ne sais pas. En tout cas, ce soir, le CAC 40 gagne 1,8%. Un mot au-delà de la séance du jour sur le mondial de foot aussi, pour terminer sur un tout petit peu de légèreté, parce que ça a démarré, ça y est. Est-ce qu'il y a des valeurs qui pourraient en profiter? C'est une question que nous a envoyée une auditrice, Dorothée, hier. Est-ce que, oui, le mondial peut avoir un impact sur certaines valeurs, Stéphanie?
Bien sûr, tous les équipements, l'équipementier phare, c'est Adidas, hein, donc qui est l'équipementier qui équipe le plus des fédérations. Donc ça, en plus, c'est une valeur qui est plutôt pas chère comparée à Nike, qui ça se paye 16 fois, quand Nike c'est plutôt au-dessus de 20. Donc on peut se dire que Adidas va avoir un bon effet Coupe du Monde. On sait que c'est un moment de convivialité, donc toutes les valeurs aussi en lien avec l'apéro, les boissons pourraient bénéficier de tout ça, même si l'alcool évidemment est à consommer avec modération, mais tous ces acteurs, Heineken, AB InBev, etc., ont développé aussi tout ce qui est les bières sans alcool, donc ils sont créatifs. Et puis c'est vrai que je pense que tous les paris sportifs, faut pas oublier non plus que ça va être sans doute une période, et d'ailleurs on le rappelle, il faut jouer avec modération, mais les betclic, etc., pourront peut-être bénéficier de...
Quelques idées, 30 secondes, pareil, sur les gagnants du mondial, d'après vous, en bourse, hein, bien sûr, Aymeric, en bourse.
Rien à rajouter à ce qu'a dit Stéphanie. Par contre, je vais rajouter peut-être dans l'électronique, je pense les télés. C'est souvent un moment pour actualiser sa télé et monter en gamme. Donc effectivement, c'est souvent
un... C'est le moment où on change sa télé.
Exactement.
Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce soir. Aymeric Blond, Taylor AM et Stéphanie Mauger, Jérôme Privé pour Financière du ZES. Ouais, ça passe vite à chaque fois, mais là encore plus vite quand l'actualité nous propulse. C'est le cas de SpaceX. Donc on a un prix, ça y est, en hausse de 25%. Vous avez eu raison de me dire que il fallait pas trop être plus 25, là on est presque à plus 30. Donc ce titre SpaceX à $166.44 pour ses premiers pas en bourse. Il en sera aussi question dans un instant dans Les Experts sans frontières avec Mathieu Jolivet. Merci à tous, bon week-end, merci Antoine. On a vécu ensemble cette introduction en bourse historique et iconique. Le CAC 40 lui termine à plus 1,8%. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.